étudiant de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle de lecture destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé sur votre canapé pour vous, en écoutant la douce voix, soit d'Hervé, soit de Catherine, qui vous lisent chacun à leur tour quelques extraits d'un roman. Aujourd'hui, c'est Catherine qui lit. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Ben bonjour Hervé.
Bonjour.
Oui,
et
oui,
donc,
oui.
Et bien Catherine, qu'as-tu choisi de nous lire aujourd'hui ?
Eh bien, j'ai choisi un roman que je viens juste de finir. C'est tout frais, et que j'avais annoncé le mois dernier. C'est, enfin, je crois.
Oui, oui. Je confirme.
Bon, alors il s'agit d'extraits du dernier roman de Ken Follett, Le Crépuscule et l'Aube. Et ce roman est paru l'année dernière chez Robert Laffont.
Et tu nous avais dit, il me semble que c'était avant les piliers de la Terre.
En mettant en retenu des choses. Hein. Oui, c'est avant, et même le fait que ce roman se passe avant Les Piliers de la Terre, ça a un nom particulier.
Alors,
tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh bien, on appelle ça un, ou plutôt une préquelle.
Une préquelle.
Ah, c'est joli, hein. Ça oui, peut servir pour le Scrabble, ça, non?
Donc aujourd'hui, tu vas nous lire une préquelle.
Enfin, des extraits d'une préquelle.
Des extraits d'une préquelle, waouh.
Bon, c'est un mot d'origine anglaise. Alors, les Québécois qui ont un peu plus le sens, enfin le respect du français, appellent ça antépisode.
Antépisode.
En fait, c'est un roman qui se passe avant le roman qui pourtant a été écrit avant. Vous m'avez suivi?
Oui.
Alors,
c'est comme,
alors le roman le plus célèbre de Ken Follett s'appelle Les Piliers de la Terre. Eh bien, Le Crépuscule et l'Aube, ça passe avant. Alors que Les Piliers de la Terre, il les a écrits il y a 30 ans. Tout est clair?
Tout est clair.
C'est bon, comme la saga de la Guerre
mais
des Étoiles.
Donc, ça n'est pas un auteur de nouvelles.
Eh bien, oui. Alors, comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, moi qui ne lis que des nouvelles, je me suis dit, je vais me lancer dans un roman, mais pas n'importe lequel. 850
pages. 850
pages ?
Un pavé, quoi.
Diable.
Alors,
tiens, à propos de diable, au fait, figurez-vous que ce week-end, j'étais en déménagement, et alors on a voulu utiliser un diable. Mais parmi nous, il y avait un curé. Et alors on s'est posé la question, un curé a-t-il le droit d'utiliser un diable ?
Ça dépend comment.
On n'a pas trouvé la réponse. Bon bref, 850 pages.
850 pages. Vraiment, je ne referais plus un coup pareil.
Alors, le genre de livre qu'on emmène à la plage pour se caler la tête quand on prend son bain de soleil.
Oui, et quand on reste 2 mois au bord de la plage.
Ouais. Alors en fait, en plus, quand vous prenez un bouquin de 850 pages... Je pense à ceux qui ne lisent pas tous les jours un bouquin de 850 pages. Vous êtes à la page, allez, soyons optimistes, ça commence en général vers la page 10, hein, les premières.
Oui, quand même.
Vous vous dites, j'y arriverai pas, je ne vais jamais oublier entre les mains le poids de ce bouquin. Tourner les pages, enfin tout est compliqué. Et il faut tourner quelques pages, tout d'un coup, pour oublier qu'il est lourd, complètement.
C'est quand il est devenu léger.
Et puis après, on est content qu'il y en ait plein, parce qu'il y a plein de rebondissements, plein d'histoires.
Un vrai livre, quoi.
Un livre. Ah ben oui, c'est ça.
Il faut dire aussi que Catherine, au fur et à mesure qu'elle lit un livre, elle déchire les pages.
Voilà.
Alors comme ça, il devient de plus en plus léger.
Et donc, sur ce pavé de 850 pages, tu en as choisi une petite vingtaine.
Voilà, alors ça fait, 2% quand même.
Ouais. Ah oui.
Mais je l'ai pris, comme dirait dans une citation célèbre d'un film, façon puzzle. Donc parfois, peut-être, mon puzzle ressemblera à un labyrinthe et peut-être que je me perdrai. Je ne garantis rien.
Est-ce qu'au moins, il y a un déroulement linéaire du temps ? Même pas ?
Presque. Non. Parce que Ken Follett, il aime bien... Il y a de l'action, ça c'est clair, oui. Mais c'est un roman historique. C'est-à-dire, il fera des descriptions, tout d'un coup, il revient en disant... Voilà, donc il y a des choses comme ça, mais... Mais en plus, ça se passe, ces personnages, comme toujours, qui vivent à des endroits différents, tout d'un coup, vont-ils se rencontrer un jour?
Oui. Ben, pour tenir 850 pages, oui, il faut qu'il y ait du monde, qu'il leur arrive des choses.
Oui, il va y en avoir de personnages. Oh là là.
Voilà.
Très bien, on y va?
Bah, quand vous voulez.
Allez, une petite musique.
jeudi 17 juin 997. Il n'était pas facile de rester éveillé toute la nuit, constata Edgar, même si c'était la plus importante de votre vie. Il avait étalé sa cape sur les roseaux qui jonchaient le sol et s'était allongé dessus, vêtu d'une tunique de laine brune qui lui descendait aux genoux. C'était le seul vêtement qu'il portait en été, de jour comme de nuit. En hiver, il s'enveloppait dans sa cape et se couchait près du feu. Mais là, il faisait chaud, le solstice d'été était dans une semaine. Edgar connaissait bien les dates. Il secoua la tête, il risquait de s'assoupir s'il laissait son esprit vagabonder. Il chercha une position inconfortable et se coucha sur son poing pour s'obliger à rester éveillé. Il se demanda s'il devrait encore attendre longtemps. Tournant la tête, il regarda autour de lui à la lueur du feu. Sa maison ressemblait à presque toute celle du bourg de Combes. Des murs en planches de chêne, un toit de chaume et un sol de terre battu partiellement recouvert de roseaux coupés sur les berges du fleuve voisin. Edgar n'aurait pas su dire combien d'heures s'étaient déjà écoulées parce qu'il avait pu lui arriver de céder au sommeil, plus d'une fois peut-être. Au début de la nuit, il avait écouté les bruits du bourg qui s'apprêtait à dormir. Deux ivrognes beuglant une chansonnette obscène, des accusations hargneuses d'une scène de ménage. Dans une maison voisine, le claquement d'une porte, les aboiements d'un chien, et puis quelque part, tout près, une femme qui sanglotait. Mais à présent, il n'entendait plus que la douce berceuse des vagues sur une plage abritée. Il tourna les yeux vers la porte, espérant distinguer des raies de lumière révélateurs sur son pourtour, mais l'obscurité était totale. Cela signifiait que la lune s'était couchée et que la nuit était bien avancée, ou bien que le ciel était couvert, ce dont il ne pouvait rien conclure. Enfin, la cloche de l'église sonna. Il y avait un monastère à l'autre bout de la ville, et les moines avaient mis au point une méthode pour mesurer le temps durant la nuit. Ils confectionnaient de grands cierges gradués qui leur indiquaient l'heure en se consumant. Une heure avant l'aube, ils sonnaient la cloche puis se levaient pour chanter matine. Edgar ne se leva pas tout de suite. Le son de la cloche avait pu déranger Ma, qui ne dormait jamais que d'une oreille. Il lui laissa le temps de replonger dans un profond sommeil. Enfin, il se mit debout. En silence, il ramassa sa cape, ses souliers, sa ceinture à laquelle était accroché un poignard dans son fourreau. Il traversa la pièce pieds nus en contournant les meubles, une table, deux tabourets, un banc. La porte s'ouvrit sans bruit. Edgar avait graissé les gonds de bois la veille en les enduisant d'une généreuse couche de suif de mouton. Il sortit, referma précautionneusement la porte derrière lui. La lune était couchée, mais le ciel était dégagé et les étoiles éclairaient la plage. La maison était séparée de la laisse de haute mer par un chantier naval. Pa était charpentier de marine et ses trois fils travaillaient avec lui. Comme Pa était bon artisan, mais piètre homme d'affaires, c'était Ma qui prenait toutes les décisions financières. Edgar jeta un regard vers le chantier tout en lassant ses souliers et en bouclant sa ceinture. Il n'y avait qu'une embarcation en construction, une barque qui permettrait de remonter le fleuve à la rame. À côté d'elle étaient rangées d'importantes et précieuses réserves de bois, les troncs fendus en moitié et en quart, prêts à être façonnés pour donner naissance aux différentes parties d'un bateau. En plus du tas de bois, le chantier abritait un fût de goudron, un rouleau de corde, une meule. Le tout était gardé par un chien à l'attache, Grendel, un mastif noir au museau gris, trop âgé désormais pour faire grand mal à d'éventuels voleurs, mais encore capable de donner l'alerte en aboyant. « Au revoir, mon vieux chien » murmura-t-il, et Grendel remua la queue sans se redresser. Le chantier abritait aussi une embarcation terminée qu'Edgar considérait comme la sienne. Il l'avait construite lui-même, d'après un plan original inspiré d'un navire viking. Edgar n'avait jamais vu de viking en chair et en os. Il n'avait pas été attaqué à Combes depuis qu'il était né, mais 2 ans auparavant, une épave s'était échouée sur la plage. Vide et noircie par le feu, sa figure de proue en forme de dragon à demi fracassé, rejetée sans doute sur la grève à l'issue de quelques batailles. Edgar était resté bouche bée devant sa beauté mutilée, les courbes gracieuses, la longue proue ophidienne et la coque effilée. Il avait été particulièrement impressionné par la grande quille en saillie qui courait sur toute la longueur du bateau et qui, avait-il compris après mûre réflexion, lui conférait sa stabilité permettant aux vikings de traverser les mers. La barque d'Edgar en constituait une version miniature, équipée de 2 rames et d'une petite voile carrée. Edgar savait qu'il était doué. Il était déjà meilleur constructeur de bateaux que ses frères aînés et ne tarderait pas à dépasser leur père. Il savait intuitivement comment les formes s'assemblaient pour donner naissance à une structure équilibrée. Quelques années auparavant, il avait surpris Pa en train de dire à Ma « Hermann apprend lentement et Eadbald apprend vite ». Mais Edgar semble comprendre avant même que les mots ne franchissent mes lèvres. C'était vrai. Certains hommes pouvaient prendre un instrument de musique dont ils n'avaient jamais joué, une flûte ou une lyre, et en tirer une mélodie au bout de quelques minutes. Edgar possédait cet instinct avec les bateaux, avec les maisons aussi. Il annonçait « cette barque gîtera à tribord » ou « ce toit fuira » et il avait toujours raison. Il détacha alors sa barque et la poussa jusqu'à l'eau. Le frottement de la coque sur le sable fut étouffé par le bruissement des vagues qui se brisaient sur le rivage. Edgar mit son bateau à l'eau. Il se retourna vers la maison familiale avec un pincement au cœur, se demandant s'il la reverrait un jour. C'était la seule où il se rappelait avoir vécu. Il avait eu de la chance de trouver un emploi ailleurs. Les affaires avaient ralenti depuis la reprise des attaques vikings contre le sud de l'Angleterre quand Edgar avait 9 ans. Le commerce et la pêche étaient des activités dangereuses quand les pillards rôdaient dans les parages. Il fallait être courageux pour acheter des bateaux. Il sentit une brise fraîche du sud-ouest, le vent dominant sur le littoral. Son bateau était équipé d'une voile, petite parce qu'elle coûtait très cher. Une femme mettait 4 ans à en fabriquer une de grande dimension destinée à un navire de haute mer. Mais Edgar pouvait s'en passer pour la courte traversée de la baie. Il se mit à ramer, ce qui ne le fatiguait guère. Il était musclé comme un forgeron à l'image de son père et de ses frères. Toute la journée, 6 jours par semaine, il maniait la hache, l'herminette et la vrille, façonnant les virures de chêne qui formaient les coques. C'était un dur labeur qui endurcissait les hommes. Il avait le cœur en joie. Il était parti. Et il allait retrouver la femme qu'il aimait. Les étoiles brillaient, la plage scintillait blanche sous le ciel, et quand ses rames brisaient la surface de l'eau, les rouleaux d'écume étaient comme les cheveux de sa bien-aimée retombant sur ses épaules. Son vrai nom était Sungifu, mais on l'appelait le plus souvent Sunny. Et il n'y avait pas au monde de femme comme elle. En passant, il regarda les installations situées au bord de mer, pour l'essentiel les lieux de travail de pêcheurs et d'artisans. Edgar porta le regard de l'autre côté de la baie vers la destination. L'obscurité l'aurait empêché de voir Sunny, même s'il avait été là, mais ce qui n'était pas le cas, il le savait car ils étaient convenus de se retrouver à l'aube. Mais il ne pouvait s'empêcher de garder les yeux rivés sur l'endroit où elle ne tarderait pas à apparaître. Âgée de 21 ans, Sunny était de plus de 3 ans l'aînée d'Edgar. Elle avait attiré son attention un jour qu'il était assis sur la plage à observer les paves vikings. Il la connaissait de vue, bien sûr, il connaissait tous les habitants de ce petit bourg, mais il ne l'avait pas vraiment remarqué jusqu'alors et ne savait rien de sa famille. « As-tu été rejeté à terre avec l'épave ?» lui avait-elle demandé. « Tu étais tellement immobile que je t'ai pris pour un bois flotté. » Elle devait avoir beaucoup d'imagination pour tenir un tel discours de but en blanc, avait-il songé immédiatement. Et il lui avait expliqué pourquoi les lignes de ce navire le fascinaient, assurait qu'elle comprendrait. Ils avaient bavardé pendant 1 heure et il était tombé amoureux d'elle. Quand elle lui avait avoué qu'elle était mariée, il était déjà trop tard. Son mari, Sinéric, avait 30 ans. Elle en avait 14 quand elle l'avait épousé. Il possédait un petit troupeau de vaches et Sunny s'occupait de la laiterie. Astucieuse, elle faisait gagner beaucoup d'argent à son mari. Il n'avait pas d'enfant. Edgar n'avait pas tardé à apprendre que Sunny détestait Sinéric. Toutes les nuits, après la traite du soir, il allait se saouler à la taverne des marins. Pendant ce temps, Sunny pouvait filer dans les bois retrouver Edgar. Désormais, ils n'auraient plus besoin de se cacher. Ils allaient s'enfuir, mettre les voiles. On avait proposé à Edgar un emploi et une maison dans un village de pêcheurs à 25 lieues de la côte. Il avait eu de la chance de trouver un charpentier de marine qui embauchait. Edgar n'avait pas d'argent. Il n'en avait jamais. Sa mère prétendait qu'il n'en avait pas besoin. Mais ses outils étaient en sécurité dans un meuble de rangement qu'il avait aménagé à l'intérieur de son bateau. Il commencerait une vie nouvelle.
Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? Ces drôles n'ont plus de densité. assez drôle, non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, boïc, est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses. D'azur aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de tes nuésures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant. À gauche, à l'est, enfin, enfin comme un vieil éléphant.
Il atteignit l'autre côté de la baie, hissa son bateau sur la rive et l'amarra à un gros rocher. Les psalmodies des moines en prière parvenaient à ses oreilles. Le monastère était tout proche et la maison de Cinéric et Sunny se trouvait quelques centaines de pas plus loin. Il s'assit sur le sable, contemplant la mer enténébrée et le ciel nocturne. Il pensait à elle. Parviendrait-elle à s'enfuir aussi facilement que lui? Et si Cinéric se réveillait et l'empêchait de partir? Et s'il se battait? Peut-être la frapperait-il? Il fut pris de l'envie soudaine de modifier leur plan, de quitter la plage, d'aller la chercher. Non, mais il résista à la tentation. Elle s'en sortirait mieux que lui. Cinéric serait plongé dans un sommeil aviné et Sunny se déplacerait comme un chat. Elle serait bientôt là, les yeux brillants d'excitation, le corps souple et ardent. Quand pourrait-il faire l'amour? Elle serait aussi impatiente que lui. Il pourrait contourner la pointe, puis jeter à l'eau le rocher entouré d'une corde qui lui servait d'ancre et il s'allongerait au fond de l'embarcation sur des bancs de sable. Ce serait pas très confortable, mais quelle importance ! Le bateau se balancerait doucement sur les vagues et ils sentiraient la chaleur du soleil, le vent sur leur peau nue. Bon, ils avaient décidé de prétendre qu'ils étaient déjà mariés quand ils arriveraient dans leur nouvelle demeure. Ils n'avaient encore jamais couché dans le même lit. Désormais, ils souperaient ensemble tous les soirs. Ils dormiraient dans les bras l'un et l'autre toute la nuit, échangeant un sourire complice au matin. Il aperçut une faible lueur à l'horizon. L'aube n'allait pas tarder à poindre. Sunny serait là d'un instant à l'autre. Au bout de quelques secondes, il crut entrevoir la tête d'un monstre et un frisson d'effroi le parcourut. Il lui sembla discerner des oreilles pointues, de puissantes mâchoires et un long cou qui se découpait sur la faible lueur du ciel. Il ne lui fallut alors que quelques instants pour comprendre que ce qu'il avait sous les yeux était pire qu'un monstre. C'était un navire viking, avec une tête de dragon à l'extrémité de sa longue proue incurvée. Un autre vaisseau surgit à l'horizon, puis un troisième et un quatrième. La brise du sud-ouest qui forcissait gonflait leurs voiles et les bâtiments légers franchissaient les flots à vive allure. Edgar bondit sur ses pieds. Les vikings étaient des pillards, des violeurs, des assassins. Ils se livraient à des incursions le long des côtes et remontaient les fleuves. Ils incendiaient les bourgs, volaient tout ce qu'ils pouvaient emporter et tuaient tous les habitants, hormis les jeunes gens, hommes et femmes, qu'ils emmenaient pour les vendre comme esclaves. Edgar hésita encore un instant, il dénombrait à présent 10 navires, ce qui voulait dire au moins 500 vikings. Mais était-ce réellement des bateaux vikings ? D'autres constructeurs avaient adopté leurs innovations et reproduit leurs conceptions, ainsi qu'Edgar lui-même l'avait fait. La différence était pourtant indéniable. Il émanait des vaisseaux scandinaves une sombre menace qu'aucun imitateur n'avait su reproduire. Du reste, quel autre navire approcherait du littoral à l'aube en aussi grand nombre ? Non, il ne pouvait y avoir aucun doute. L'enfer allait s'abattre sur Combes. Il devait filer chez Sunny. S'il parvenait à la rejoindre à temps, il pourrait encore s'échapper. Il songea alors avec remords que sa première pensée avait été pour elle et non pour sa famille. Il devait les avertir eux aussi, mais ils habitaient de l'autre côté du bourg, il irait d'abord chez Sunny. Il fit demi-tour, longea la plage en courant, scrutant le sentier pour éviter les obstacles. Au bout d'une minute, il s'arrêta et tourna les yeux vers la baie. La vitesse avec laquelle les vikings avaient progressé le glaça. Des torches enflammées approchaient rapidement, certaines projetant leurs reflets sur la mer mouvante, d'autres franchissant déjà l'étendue de sable. Ils avaient débarqué. Il était pourtant silencieux. Et Edgar entendait encore les moines prier, inconscients du sort qui les attendait. Il fallait les prévenir, mais ils ne pourraient jamais alerter tout le monde. Ou peut-être que si. Avisant les contours du clocher de l'église des moines qui se découpait sur le ciel déjà plus clair, il vit un moyen d'avertir Sunny, sa famille, les moines et tout le bourg. Il obliqua en direction du monastère. Une palissade basse surgit de la pénombre et il la franchit d'un bond, sans ralentir l'allure. En atterrissant de l'autre côté, il trébucha, se rétablit, reprit ses jambes à son cou. Arrivé devant l'église, il se retourna. Le monastère étant construit sur une légère éminence, il pouvait voir toute la ville en même temps que la baie. Plusieurs centaines de victimes pataugeaient à travers les hauts fonds pour gagner la plage puis le bourg. Il vit s'embraser la paille craquante d'un toit de chaume desséché par l'été, puis un autre et un autre encore. Il connaissait tous les bâtiments de la ville et leurs occupants, mais il ne faisait pas encore suffisamment jour pour qu'il pût les identifier. Il se demanda sombrement si sa propre maison était de celle qui flambait. Il ouvrit brusquement la porte de l'église. La lumière mouvante des cierges éclairait la nef. Le chant des moines faiblit lorsque certains le virent se précipiter au pied du clocher. Il s'empara de la corde qui se balançait, l'empoigna fermement et tira. « Il faut sonner la cloche !» dit-il au désespoir. « Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas ?»« Mais que se passe-t-il, Edgar ?»« Les vikings sont là !» cria Edgar en recommençant à tirer sur la corde. Il n'avait encore jamais cherché à actionner une cloche d'église et son poids le surprit. « Oh non !» gémit le prieur Ulfric. La réprobation peinte sur son visage laissa place à l'effroi. « Que Dieu nous épargne !»« Tu es sûr de ce que tu dis, Edgar ?» demanda Merwin. « Je les ai vus depuis la plage. » Merwin courut jusqu'à la porte et regarda au dehors. Il revint blême. « Il a raison, dit-il. Fuyez tout sur la Ulfric. Attendez, intervint Merwin. Edgar, continue à tirer sur la corde. Il faut plusieurs tractions pour la mettre en branle. Soulève tes pieds et reste suspendu. Vous tous, il nous reste que quelques minutes avant qu'il soit là. Ne partez pas les mains vides. Prenez d'abord les reliquaires contenant les restes des saints, puis les ornements d'église incrustés de pierres précieuses, et aussi les livres. Et ensuite, courez vous réfugier dans les bois. Accroché à la corde, Edgar souleva tout son corps du sol, et un instant plus tard, il entendit résonner les bruits assourdissants de la grosse cloche. Les agresseurs remontaient la grand-rue, pourchassant les habitants qui fuyaient en empruntant le même chemin. En revanche, il n'y avait pas de vikings derrière les maisons. Chacune disposait d'environ un demi-arpent de terre. La plupart des gens cultivaient des arbres fruitiers et un potager. Les plus riches y ajoutaient un poulailler ou une porcherie. Edgar passa de jardin en jardin, se rapprochant du domicile de Sunny. Il atteignit la maison, ouvrit la porte toute grande et se précipita à l'intérieur. La première chose qu'il vit fut Cinéric, étendu sur le sol. Les joncs qui entouraient cet homme épais de petite taille aux cheveux noirs étaient imbibés de sang. Il ne bougeait plus. Une plaie béante entre son cou et son épaule avait cessé de saigner, et Edgar comprit qu'il était mort. La chienne brun et blanc de Sunny Brindy s'était réfugiée dans un coin tremblante et haletante comme tous les chiens, terrifiée. Mais elle, où était-elle ? Une porte à l'arrière de la maison donnait sur la laiterie. Le battant était ouvert et quand Edgar s'en approcha, il entendit Sunny crier. Dès qu'il entra, il aperçut le dos d'un grand viking aux cheveux jaunes en pleine rixe. Un seau de lait était renversé sur le sol de pierre et la longue mangeoire des vaches avait basculé. Il ne fallut à Edgar qu'une fraction de seconde pour constater que l'adversaire du viking n'était autre que Sunny. Son visage hâlé était crispé de colère, sa bouche était grande ouverte sur ses dents blanches, ses cheveux bruns tout ébouriffés. Le viking tenait une hache dont il ne se servait pas. De l'autre main, il essayait de maîtriser Sunny qui cherchait à le taillader avec un grand couteau de cuisine. Il n'avait manifestement pas l'intention de la tuer mais de la capturer, car une jeune femme en bonne santé se vendait au prix fort au marché aux esclaves. Ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué Edgar. Sans laisser à celui le temps d'intervenir, Sunny brandit son couteau et lacéra le visage du viking, qui poussa un rugissement de douleur tandis que le sang giclait sur sa joue blessée. Furieux, il lâcha son arme, empoigna Sunny par les deux épaules et la projeta à terre. Elle tomba de tout son poids et Edgar entendit un affreux bruit mat lorsque sa tête heurta la marche de pierre du seuil. Elle sembla perdre connaissance sous ses yeux horrifiés. Le viking mit un genou en terre, plongea la main à l'intérieur de son pourpoint et en sortit une longue lanière de cuir dans l'intention manifeste de la ligoter. Tournant légèrement la tête, il aperçut Edgar. L'inquiétude se lut sur son visage. Il tendit le bras pour ramasser la hache qu'elle avait à lâcher. Mais il ne fut pas assez prompt et Edgar mit la main dessus juste avant lui. Cette arme ressemblait beaucoup à l'outil qu'Edgar utilisait pour abattre les arbres. Il l'attrapa à deux mains et tout au fond de son esprit nota que le manche et la tête étaient parfaitement équilibrés. Il recula hors de portée du viking. L'homme commença à se relever. Edgar balança l'arme en dessinant un large cercle. Il la fit repasser derrière lui et la brandit au-dessus de sa tête avant de l'abattre enfin rapidement, brutalement et avec précision dans une courbe parfaite. La lame acérée frappa le sommet de la tête du viking. Elle traversa les cheveux, la peau, le crâne et s'enfonça profondément, laissant la cervelle se répandre sur le sol. Au grand désarroi d'Edgar, le viking ne s'effondra pas sur le champ, mais parut lutter pour rester debout. Enfin, la vie le quitta comme la flamme d'une bougie qu'on souffle, et il s'affala dans un désordre de membres inertes. Laissant tomber son arme, Edgar s'agenouilla à côté de Sunny. Elle avait les yeux ouverts, le regard fixe. Il murmura son nom. « Dis-moi quelque chose, » fit-il tout bas. Il lui prit la main et souleva son bras. Il était flasque. Il posa un baiser sur ses lèvres dont ne s'échappait plus aucun souffle. Il tâta son cœur juste sous la tendre courbe du sein qu'il adorait. Il y laissa la main, espérant encore sentir une palpitation. Et dans un sanglot, il se rendit à l'évidence. Elle était partie, son cœur ne battrait plus jamais.
Il a plu sur Nantes, donne-moi la main. Le ciel de Nantes rend mon cœur comme celui-là. Il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue. Je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. La connaît l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même sans un adieu, sans un je t'aime. Qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre. Je veux que tranquille il repose, je l'ai couché dessous les roses. Mon père, il pleut sur Nantes et je me souviens le ciel de Nantes rend.
Bien, eh bien, ça commence très fort ce livre.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Un petit mot sur Ken Follett, peut-être ? Tu nous as déjà largement
j'ai
parlé
dit des petites
de,
choses,
de
mais enfin, Ken Follett, c'est vraiment. Alors, d'abord, personne ne me dit que c'est un écrivain anglais, mais je vous le dis, c'est pas un écrivain anglais.
Ah non, on t'écoute.
Il serait pas
fait.
Anglais, par exemple ?
Non, c'est un Britannique. Et oui, il est gallois, en fait.
Il est gallois,
né à Cardiff.
Alors, on lui pardonne.
Voilà, on lui pardonne. Mais le roman se passe bien en Angleterre. Hein. Voilà. Alors, Ken Follett, c'est un grand romancier de romans historiques.
Il y a d'autres que Les Piliers de la Terre. Il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait.
Ah si, il y en a plein. Il y en a qui se passent. Alors, il y a le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Il y en a au 19e, dans les mines. Il y en a au 20e, sur les espions, pendant la guerre.
Ah, oui.
Il y a plein de choses. Mmh. Non, c'est
en
énorme.
En général, on ne connaît que Les Piliers de la Terre.
Mais Les Piliers de la Terre, c'est le plus connu. C'est aussi quand
c'est
un roman,
mais c'est
presque trois pavés, en fait. C'est énorme. Et donc, qui se passe à la suite. Les Piliers de la Terre, c'est au XIIe siècle, c'est les constructions des cathédrales. Mmh. Là, à la fin du roman, on comprend qu'on commence à construire une cathédrale. Mais c'est tout à la fin. Donc là, vous avez fait la connaissance du héros de la saga qui s'appelle Edgar, un jeune homme de 18 ans. Et dans la deuxième partie que je vous ai choisie, alors c'est très dur parce que je vous fais juste de la présentation de personnage, mais on ne voit pas tout le côté quand même palpitant, même si là, il y en avait un petit peu. Parce
Là, quand même, oui.
Voilà, parce que voilà, il faut le lire, il y a tellement de choses qui se passent. Vous allez voir, les personnages, ils vont leur en passer des choses dans la vie. Et pourtant, ce n'est que 10 ans de leur vie. Vous avez l'impression d'avoir vécu 40 ans quand vous avez lu ça. Tellement il leur arrive des choses. Voilà, alors maintenant, on va faire connaissance de Ragnhild. C'est une héroïne normande.
Tu peux répéter ?
Non, mais elle a un petit nom, ça sera plus simple. On l'appelle Ragna.
Nia.
Ragnhild. Début juillet 997. Dame Ragnhild, fille du comte Hubert de Cherbourg, était assise entre un moine anglais et un prêtre français. Ragna, comme on l'appelait, trouvait le moine intéressant et le prêtre prétentieux. Malheureusement, c'était au prêtre qu'elle devait essayer de plaire. Ils étaient rassemblés pour le repas de midi au château de Cherbourg, une imposante forteresse de pierre située au sommet de la colline qui dominait le port. Le père de Ragna était fier de cette bâtisse audacieuse et originale. La longue table sur tréteau avait été dressée dans la grande salle à l'étage supérieur du château et était recouverte de draps de lin blanc qui descendaient jusqu'au sol. Le comte et la comtesse, ainsi que les plus éminents de leurs invités, mangeaient dans des bols de bronze, buvaient dans des coupes de merisier à liseré d'argent et maniaient des couteaux et des cuillères dont la surface intérieure était dorée. De la vaisselle luxueuse sans être extravagante pour autant. Le moine anglais, Fred, frère Aldred, était d'une beauté renversante. Il rappelait à Ragna une sculpture de la Rome antique au marbre taché par l'âge qu'elle avait vue à Rouen, la tête d'un homme aux cheveux courts et bouclés qui avait perdu l'extrémité de son nez mais avait dû appartenir à la statue d'un dieu. Aldred était arrivé l'après-midi précédent tenant contre sa poitrine une caisse de livres qu'il avait achetée dans la grande abbaye normande de Jumièges. Son scriptorium est l'égal des plus beaux du monde, s'était extasié Aldred. Une armée de moines s'emploie à copier et enluminer des manuscrits afin d'éclairer l'humanité. Les livres et la sagesse qu'il recelait étaient manifestement sa grande passion. Le prêtre interrompit alors leur conversation, rappelant ainsi à Ragna qu'elle avait pour mission de lui faire bonne impression. « Dites-moi, dame Ragnhild, savez-vous lire sans qui, père Louis ?» « Oui, bien sûr. » Il leva un sourcil légèrement surpris. La chose n'avait rien d'évident. Toutes les femmes nobles ne savaient pas lire. Et de loin, Ragna comprit qu'elle venait de se laisser aller au genre de remarques qui lui valait une réputation de hauteur. Cherchant à se montrer plus gracieuse, elle précisa « Mon père m'a appris les lettres quand j'étais petite, avant la naissance de mon frère. » Une semaine plus tôt, au moment où le père Louis était arrivé, la comtesse avait fait venir sa fille dans les appartements privés Conto et lui avait demandé « Pourquoi pensez-vous qu'il soit venu ?» Ragna avait froncé les sourcils, je l'ignore. C'est un homme important, il est secrétaire du comte de Reims et chanoine de la cathédrale. Geneviève était sculpturale, mais malgré son aspect majestueux, il n'en fallait pas beaucoup pour l'impressionner. Alors, qu'est-ce qui l'amène à Cherbourg ? Vous, avait répondu Geneviève. Ragna avait commencé à comprendre. Le comte de Reims a un fils, Guillaume, qui a votre âge et n'est pas encore marié, avait poursuivi sa mère. Le comte cherche une épouse pour son fils et le père Louis est venu voir si vous pourriez vous accorder. Et ce Guillaume, comment est-il ? C'est un neveu du roi Robert. Robert II, âgé de 25 ans, était roi de France et aux yeux de Geneviève, la plus grande qualité d'un homme pût avoir était d'être apparenté à une tête couronnée. À 20 ans déjà, Ragna ne pouvait pas rester indéfiniment célibataire et elle n'avait nulle envie de finir ses jours au couvent. Sa mère commençait à s'inquiéter. « Vous aspirez à vivre une grande passion, une idylle qui durerait toute votre vie, mais cela n'existe que dans les poèmes. Dans la vie réelle, nous, les femmes, devons nous contenter de ce que nous pouvons avoir. » Ragna savait qu'elle avait raison. Elle épouserait probablement Guillaume, s'il n'était pas franchement repoussant. Mais elle voulait y mettre certaines conditions. Si elle souhaitait obtenir l'approbation de Louis, elle tenait également à lui faire comprendre quelle sorte d'épouse elle voulait être. Elle n'avait aucune intention d'être purement décorative, telle une superbe tapisserie que son mari serait fier de montrer à ses invités. À présent, devant un plat de bar fraîchement pêché et cuisiné dans du cidre, Louis entreprenait de sonder les facultés intellectuelles de Ragna. avec une note de scepticisme parfaitement audible, il lui demanda « Et quel genre d'ouvrage lisez-vous, madame ?» Son ton laissait percevoir qu'il avait peine à croire qu'une jeune fille séduisante puisse s'y entendre en littérature. Si elle avait apprécié davantage le prêtre, il lui aurait été plus facile de l'impressionner. « J'aime les poèmes qui racontent des histoires, » répondit-elle. « Par exemple ?» Il la croyait manifestement incapable de citer une seule œuvre littéraire, mais il se trompait. « L'histoire de Sainte-Eulalie est très émouvante, » reprit-elle. « À la fin, elle monte au ciel sous l'aspect d'une colombe. » « C'est exact, » acquiesça Louis d'une voix qui suggérait qu'elle n'avait rien à lui apprendre concernant les saints. « Il existe aussi un poème anglais intitulé « La complainte de l'épouse ». Elle se tourna vers Aldred. « Le connaissez-vous ?»« Oui, mais je ne suis pas certain qu'il soit d'origine anglaise. Les poètes voyagent. » en effet, acquiesça-t-il, vous êtes fort savante, madame. » Rania eut le sentiment d'avoir emporté une épreuve et se demanda si l'attitude condescendante de Louis n'avait pas été pure provocation. Par bonheur, elle n'avait pas mordu à l'hameçon. Ragnar remarqua que le vent avait tourné. « Votre navire prendra la mer ce soir, » annonça-t-elle à Aldred. « Il vous reste encore une heure avant le changement de marée, mais vous feriez mieux d'embarquer sans trop tarder. » Ils regagnèrent le château, Aldred reprit sa caisse de livres et Louis et Ragnar l'accompagnèrent jusqu'au quai. « Elle ne le reverrait probablement jamais, ce qui était grand dommage, » pensa-t-elle. Un navire entrait dans le port, profitant de la fin de marée montante. Il avait l'allure d'un bateau de pêche anglais. L'équipage amena la voile et le bâtiment s'approcha de la grève en dérivant. Aldred monta avec son cheval à bord du vaisseau qui devait l'emmener. L'équipage larguait déjà les amarres et levait l'ancre. Pendant ce temps, le bateau de pêche anglais se livrait à l'opération inverse. Aldred agita la main pour saluer Ragnar et Louis lorsque son navire commença à s'éloigner sur la marée descendante. Au même moment, un petit groupe d'hommes débarqua du bâtiment qui venait d'accoster. Ragnar les observa avec une vague curiosité, leurs grandes moustaches et leur absence de barbe signalaient des Anglais. Le regard de Ragnar fut attiré par le plus grand d'entre eux, âgé d'une quarantaine d'années. Il arborait une épaisse crinière blonde. Une cape bleue, agitée par la brise, était agrafée autour de ses larges épaules par une élégante épingle d'argent. La boucle et le mordant de sa ceinture étaient du même métal finement ouvré, tandis que la poignée de son épée était incrustée de pierres précieuses. Les orfèvres anglais étaient les plus habiles de toute la chrétienté, avait-on dit à Ragnar. L'anglais s'avançait d'un pas assuré avec ses compagnons et qui devait se hâter pour ne pas se laisser distancer. Il se dirigea droit sur Ragnar et Louis, dont la mise trahissait le haut rang. « Bienvenue à Cherbourg, anglais, » lança Ragnar. « Quel bon vent vous amène ?» L'homme l'ignora pour aller s'incliner devant Louis. « Bonjour, mon père, » dit-il en mauvais français. « Je suis venu parler au comte Hubert. Je suis Wilwulf, Ealdorman de Shiring. » Wilwulf ne possédait pas le même genre de beauté qu'Aldred. L'Ealdorman avait un grand nez, une mâchoire proéminente, les mains et les bras couturés, ce qui n'empêcha pas toutes les servantes du château de rougir et de glousser quand il passa devant elle à cheval. Un étranger éveillait toujours la curiosité, mais ce n'était pas la seule cause de la fascination qu'exerçait Wilwulf. Sa haute stature, la souplesse de sa démarche et l'intensité de son regard n'y étaient pas étrangères. Et surtout, il possédait un aplomb tel qu'il semblait prêt à tout. Les filles avaient l'impression qu'il pourrait sans effort les soulever de terre et les emmener au grand galop. Il intriguait Ragnar, mais semblait suprêmement inconscient de sa présence, comme de celle des autres femmes. Il s'entretint avec son père et quelques nobles normands en visite et discutait avec ses hommes d'armes dans un anglo-saxon guttural et rapide que Ragnar ne comprenait pas. En revanche, il n'adressait pour ainsi dire jamais la parole aux filles. Ragnar était vexé. Elle n'avait pas l'habitude d'être ignorée de la sorte. Son indifférence l'agaçait et lui donnait envie de le provoquer. Elle était habituée à faire de l'effet aux hommes et son indifférence la piqua au vif. Pour qui se prenait-il ? Dotée d'un solide esprit de contradiction, elle n'eut plus qu'une idée en tête, le séduire. Le père Louis était reparti pour Reims sans avoir décelé les premiers signes de la passion de Ragna pour Wilworth. Il avait, semble-t-il, fait savoir que Ragna ferait une épouse tout à fait convenable pour le jeune vicomte Guillaume, car celui-ci était arrivé à Cherbourg pour prendre une décision définitive. Guillaume trouvait Ragna parfaite. Il ne cessait de le lui dire. Il l'examinait sous tous les angles, lui prenait parfois le menton pour lui déplacer légèrement le visage d'un côté à l'autre ou de bas en haut afin de mieux attraper la lumière. « Parfaite, concluait-il, les yeux verts comme la mer, une teinte que je n'avais encore jamais vue, le nez remarquablement droit, d'une admirable finesse, les pommettes parfaitement symétriques, le teint pâle, et par-dessus tout, ses cheveux. » Ragna avait la tête généralement couverte comme toutes les femmes respectables, mais elle autorisait quelques boucles à s'échapper coquettement de son voile. « Un or si lumineux, je suis certain que les ailes des anges sont de la même couleur. » Bien que flattée, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il l'admirait comme il aurait pu admirer une broche émaillée, la plus précieuse de sa collection. Wilworth ne lui avait jamais dit qu'elle était parfaite. Guillaume était lui-même très séduisant. Ils descendirent les marches de bois et entrèrent dans la grande salle. Geneviève ne s'y trouvait pas, ce qui donna à Ragna un prétexte pour abandonner Guillaume et gagner les appartements privés du comte et de la comtesse. Elle trouva sa mère devant son coffret à bijoux ouvert en train de choisir une épingle pour sa robe. « Bonjour, ma chérie, dit la comtesse. Comment vous entendez-vous avec Guillaume ? Il me paraît tout à fait bien. » « Guillaume est certainement un parti avantageux. »« Un parti avantageux, se répéta Ragna tout bas. Ce que je voulais, c'est une histoire d'amour qui me ferait chanter le cœur et tout ce qu'on me propose, c'est un parti avantageux. » Pourtant, il allait bien falloir qu'elle l'épouse. Elle quitta sa mère d'humeur maussade, traversa la grande salle et sortit, espérant que l'éclat du soleil la réconforterait. Une poignée de visiteurs attendait près de la porte de l'enceinte. Sans doute avait-il débarqué d'un des deux navires qu'elle avait vu approcher un peu plus tôt. Au centre du groupe se tenait un noble à moustache mais sans barbe. Un Anglais, certainement. Et pendant une fraction de seconde enivrante, elle le prit pour Wilworth. Il était blond et de haute stature. Il avait un grand nez et une mâchoire puissante et elle se mit à fantasmer. Wilworth était revenu pour l'épouser et l'emmener avec lui. Mais il ne fallut pas longtemps pour s'apercevoir que l'homme en question portait la tonsure et la longue robe noire de l'homme d'église. Ni le père de Ragna, ni aucun de ses principaux conseillers n'étant à portée de vue, il lui incombait d'accueillir le visiteur. Elle se dirigea vers lui. « Je vous souhaite le bonjour, messire. Bienvenue à Cherbourg. Je suis Ragna, fille du comte Hubert. » Sa réaction la désarçonna. Il la dévisagea attentivement et un sourire moqueur joua sous sa moustache. « Ah oui, vraiment » demanda-t-il, comme si la nouvelle le captivait. « Est-ce bien vous ?» Il parlait un français correct, malgré son accent. Elle ne sut que répondre, mais son silence ne parut pas embarrasser le visiteur. Il l'examinait de la tête aux pieds comme il aurait inspecté un cheval, vérifiant tous les détails essentiels. Son regard insistant commençait à frôler la grossièreté. Il reprit enfin la parole. « Je suis l'évêque de Shiring. Je m'appelle Winston. Je suis le frère de l'ealdorman Wilworth. » Pourquoi Winston était-il venu à Cherbourg ? Si ces hommes d'armes le savaient, ils n'en disaient rien. Sa présence était probablement liée à l'exécution du traité conclu entre Wilworth et Hubert. Sans doute Winston était-il venu vérifier qu'Hubert tenait parole et refusait aux Vikings le droit de mouiller dans le port de Cherbourg. Ou peut-être Ragna n'est-elle pas étrangère à sa visite ? Elle apprit la vérité le soir même. Après le souper, alors que le comte Hubert s'apprêtait à se retirer, Winston le prit à l'écart et lui parla tout bas. Ragna eut beau tendre l'oreille, elle ne put distinguer ses paroles. Hubert répondit en chuchotant lui aussi, avant de hocher la tête et de se diriger vers ses appartements privés suivis de Geneviève. Celle-ci fit venir Ragna peu après. « Que s'est-il passé ? » demanda la jeune fille, le souffle court, dès qu'elle fut dans la pièce. « Qu'a dit Winston ?» Sa mère semblait de fort méchante humeur. « Demandez à votre père, dit-elle. L'évêque Winston est chargé de me transmettre une demande en mariage vous concernant de la part de l'ealdorman Wilworth, annonça Hubert. Ragna ne put dissimuler son allégresse. Thank you.
عليك لازم نكدب عليك الريح ما يقيسنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك انت ما تعرفني ايش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك كشراني قاعدة وكشوالف تلقى عالباردة يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي حرت كجراني شدة الطير اللي عايش في القفص ما عنده حتى فايدة يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي بدمع ما تعرفني ايش يما نكتب علي لازم نكتب علي لو كان جات الارض امطار نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي دموع ما تعرفني ايش يما نكتب علي لازم نكتب علي يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب عليك لازم نكتب عليك كتب ما تعرفني ايش يما نكتب عليك لازم نكتب عليك
bien. Eh bien, merci pour ces extraits du
le crépuscule et l'aube.
Le crépuscule et l'aube.
Bah écoute, alors c'est vrai que c'est un peu comment dire perturbant, ça part dans tous les sens, c'est très dur de couper des morceaux, donc parfois si vous avez pas compris, vous avez qu'à le lire, hein.
Qu'à le
c'est
lire.
Aussi simple
exactement.
Que ça, hein. Alors, vous avez déjà fait connaissance avec les héros de l'histoire. Les héros, c'est le jeune Edgar qui est charpentier de marine.
Les personnages
18
principaux.
Ans. Voilà. Voilà, les personnages principaux.
Le héros, ça restera Edgar.
Le héros, c'est Edgar, 18 ans, charpentier de marine. Et l'héroïne, c'est Ragna, 20 ans, qui est la fille donc, du comte Hubert de Cherbourg. Il y a un autre personnage que vous avez entreaperçu, c'est Aldred, le beau moine qu'elle a trouvé si beau. C'est un moine idéaliste qui rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition. Donc on verra aussi peut-être la naissance d'une bibliothèque extraordinaire.
Wow.
Voilà. Et là-dedans, il y a plein de méchants. Donc dans cette période trouble, chacun d'eux, à son tour, s'opposera au péril de sa vie à qui ? À l'évêque Winston que vous avez aperçu là, le monsieur qui dévisageait
lui,
cette jeune fille.
Ça restera le grand méchant.
Et bien le grand méchant qui est donc ses trois frères ou demi-frères, il y a Wilworth, le bel anglais, Winston, puis un autre petit frère qui est un sacré monstre. Et donc nous allons partager 10 ans de leur vie qui est riche en événements, en rebondissements, en aventures. Et on les quittera en janvier 1007. Voilà, vie intense, violente, surprenante, passionnante. De quoi occuper quelques soirées. Hein ?
Oui, cela dit, réussir à parler d'un livre de 850 pages en une petite heure, c'est...
Pour une spécialiste des nouvelles, qui n'avait rien à découper, franchement...
C'était une gageure.
Bien, tu nous rappelles le titre du roman ?
Alors, Le Crépuscule et l'Aube, l'auteur s'appelle Ken Follett et c'est publié chez Robert Laffont et c'est sorti à l'automne 2020.
Très bien, très bien. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Merci Catherine pour ce Ken Follett.
C'est un marathon, c'est pas un Ken Follett.
Donc, chers auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une autre lecture. Cette fois, ce sera au tour d'Hervé.
Tout à fait.
Hervé, as-tu déjà pensé au livre que tu veux lire ?
Je m'attendais à la question et cherche
bien
ma tête.
Sûr que non.
Et non, je n'ai choisi aucun roman pour l'instant.
Très bien. Eh bien, au revoir à tous.
Moi, je ne peux pas le croire.
Hein. Ouais.
Tu crois que c'est calculé à l'avance ?
Ouais, ouais, ouais.
Allez, au revoir à tous et au mois prochain.
Au revoir.